France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, l'alternance au Sénégal.
Le candidat du pouvoir concède sa défaite. Il a appelé Bassirou Diomaye Faye, qui de fait va devenir le prochain président du Sénégal au terme d'un difficile processus démocratique. Nous sommes à Dakar dès le début de ce journal.
Et on en parle aussi avec l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop, qui est l'invité de ce journal. Les autres titres, Kevin.
Après des mois de blocage, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle ce soir un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Nous serons en Guyane où Emmanuel Macron a tenté de répondre à la colère des pêcheurs et à Marseille qui prépare l'arrivée de la flamme olympique dans le Vieux-Port.
Au sommaire du 18-20 ce soir, il y a Hugo Micheron pour décrypter avec nous comment et pourquoi Moscou est en proie au terrorisme islamiste. Est-ce que c'est bien l'Asie centrale désormais, la tête de pont de l'œil ? On essaiera de le comprendre ensemble. Le reportage nous emmène en Ukraine où se fabriquent aussi des munitions parce qu'il y a bien fabrication dans ce pays en guerre. Vous verrez qu'aux États-Unis, pour la première fois depuis plus de 20 ans, un homme a été tué par un puma. Franck Madvon, dans Le Monde à 18h50, nous dira pourquoi il faut regarder ce qui se passe entre les Philippines et la Chine en mer de Chine. Et Cyril Sauvageau vous racontera l'histoire de ce faiseur de musique d'ascenseur qui a des milliers de références sur Spotify. Au téléphone sonne en deuxième heure, en cette période où on parle d'économie à faire d'urgence, la question qui fâche, faut-il revoir notre modèle social ? État protecteur contre État providence, est-ce que ça vous parle ? À vos appels, le standard est ouvert et ça se passe bien sûr au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le Sénégal a donc un nouveau président.
Bassirou Diomaye Faye était en prison il y a encore deux semaines. Ce soir, il remporte dès le premier tour une élection présidentielle qui a bien failli ne pas avoir lieu. On attend encore la proclamation officielle des résultats, mais dans un tweet, d'ores et déjà, le président Macky Sall, je cite, félicite le vainqueur que les tendances donnent gagnant. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Kevin.
Vous êtes à Dakar pour France Inter, c'est donc fait pour le candidat de l'opposition soutenu par Ousmane Sonko.
Oui, c'est la fin d'un long suspense. Le cinquième président sénégalais s'appelle Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, inspecteur des impôts. Il l'emporte dès le premier tour à Madouba. Le candidat de la majorité présidentielle a reconnu sa défaite. Il a appelé son adversaire pour le féliciter. C'est inédit. Les Sénégalais ont porté au pouvoir le plus jeune président de la République de leur histoire. Il succède à Macky Sall, dont le deuxième mandat s'achève le 2 avril prochain. Une victoire historique, car le Sénégal a connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines. Le report de ce scrutin présidentiel qui devait se tenir le 25 février avant une mobilisation de la société civile et de la jeunesse. C'est le Conseil constitutionnel qui a invalidé ce report et permis la tenue de l'élection et la victoire de Bassirou Diomaye Faye, dont le programme repose sur le rétablissement de la souveraineté nationale, la sortie du franc CFA ou encore la renégociation des accords de pêche et de défense, un projet plébiscité par une majorité des électeurs.
Omar Waman, envoyé spécial à Dakar pour France Inter.
Et bonsoir Boubacar Boris Diop.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes à Dakar, vous êtes écrivain, vous êtes sénégalais. Vous venez d'ailleurs de publier un tombeau pour Kinégajo sur le naufrage du Joula aux éditions Philippe Ray. D'abord, Boubacar Boris Diop, est-ce que vous êtes surpris d'une victoire au premier tour? Parce que l'engouement, on l'a senti, il y avait quand même 19 candidats. La promesse d'un second tour était quasiment là. La victoire au premier tour, est-ce que vous aussi vous êtes surpris?
Très surpris. J'imagine que même le vainqueur l'est. Tout le monde s'attendait au moins à un deuxième tour. Et puis, il y avait quelques candidats qui pouvaient être des poids lourds de la vie politique, quelques dinosaures qui ne manquent pas de militants. Mais ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. L'électorat a décidé que ce serait un référendum.
On va parler.
Et puis, ils ont choisi Diomaye.
On va parler de lui, de ce que promet une présidence, de ce substitut d'Ousmane Sonko d'une certaine façon. La bonne nouvelle du jour, quand même, Boubacar Boris Diop, et peut-être qu'il faut le noter, c'est que Macky Sall félicite immédiatement le vainqueur. Donc, il y aura une passation de pouvoir qui va se passer dans la sérénité. C'était pas évident au départ et ça l'est désormais.
Oui, mais tout le monde s'est exprimé, sauf Diomaye d'ailleurs. Hein.
Ouais.
Même Amadou Ba l'a félicité. Diomaye et son camp font preuve d'une belle retenue. Et je pense que ça, c'est quand même à noter. C'est pas de grands cris de victoire. Je crois qu'il mesure vraiment l'ampleur de la tâche qui les attend et il essaie aussi de se concentrer.
Alors, la tâche qui l'attend, comme vous dites, est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'achemine vers une sorte de révolution copernicienne pour le Sénégal, s'il faut définir ce qu'est, j'allais presque appeler ça le sonkisme, c'est-à-dire une présidence Ousmane Sonko, même par procuration, s'il fallait la définir, vous diriez quoi ?
Bon, ça met fin à, je pense, à un système politique en place depuis les années 50. Hein. Avant Senghor, Ouad, au fond, c'est la même classe politique qui alterne au pouvoir. Et là, c'est un jeune homme de 44 ans qui a des idées tout à fait neuves et qui ne doit, au fond, rien à personne. Mm-hmm. Il est en prison pour un post sur Facebook. Hein. Il y a fait 11 mois sans jugement et il en sort pour gagner au premier tour. Et oui, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très nouveau. Hein, révolution copernicienne, je dirais peut-être pas ça, mais c'est vraiment un tournant historique majeur.
Qui doit donc, j'imagine, frapper fort, commencer fort par des mesures qui seront de grandes mesures emblématiques parce que la hauteur de cette victoire au premier tour pourrait être aussi proportionnelle à la déception s'il ne se passe pas des choses tout de suite au Sénégal, Boubacar Boris Diop.
Les attentes sont très très grandes, c'est vrai, mais moi je crois que le chantier prioritaire n'est pas forcément matériel. L'économie, les finances, telle monnaie, etc., ce sont des choses qui peuvent venir progressivement. Et je crois que la grande urgence, c'est la moralisation de la vie politique et la lutte contre la corruption. Et qui gangrène vraiment depuis des décennies la vie politique de ce pays.
Et là-dessus, Boubacar Boris Diop, vous dites oui, ça c'est l'homme de la situation. Ça, pour le coup, on est sûr que ça va changer au Sénégal. Il reste une pointe d'inquiétude ou elle est effacée ?
L'inquiétude, c'est que les chantiers sont immenses. Il n'était pas forcément préparé à avoir sur les épaules un pays comme le Sénégal. Un pays fracturé, blessé, qui s'est retrouvé hier, fort heureusement. Et oui, c'est la seule pointe d'inquiétude. Et évidemment, la politique étant la politique, les pressions venant de toutes parts, comment est-ce que un novice dans la gestion d'un État va y faire face ? On ne sait pas très bien. Mais c'est au moins un homme de bonne volonté. Et il est d'une intégrité au-dessus de tout soupçon.
Un homme de bonne volonté, c'est ce qu'on retiendra pour l'instant. Boubacar Boris Diop, on suit en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Vous étiez l'invité de ce journal. Merci beaucoup.
L'actualité internationale ce soir, c'est aussi cette résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient, voté au Conseil de sécurité des Nations Unies, 5 mois et demi après les attaques terroristes du Hamas en Israël, alors que les frappes israéliennes ont fait depuis plus de 32 000 morts à Gaza et que 130 otages sont toujours retenus dans l'enclave palestinienne. Les États-Unis, qui avaient toujours opposé leur veto au texte contenant le mot cessez-le-feu immédiat, se sont abstenus cette fois. L'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, s'en félicite.
Plus de 5 mois après le début de la crise à Gaza, provoquée par l'attaque terroriste du Hamas, il était temps que le Conseil de sécurité puisse enfin agir. Il était temps qu'il établisse un cessez-le-feu. Il était temps qu'il exige la libération des otages. Il était temps qu'il réclame un accès humanitaire complet et une aide massive alors que la famine sévit à Gaza. L'adoption de cette résolution montre que le Conseil de sécurité peut encore agir et notre Conseil va devoir rester mobilisé et immédiatement se remettre à la tâche. Il va devoir, après le Ramadan, qui se termine dans 2 semaines, établir un cessez-le-feu permanent.
Nicolas de Rivière, l'ambassadeur de la France à l'ONU, en protestation, Israël a annulé la visite d'une délégation prévue à Washington, estimant que l'abstention de son allié nuisait à sa guerre contre le Hamas. Le mouvement islamiste, qui salue de son côté cette résolution, et dit, je cite, sa volonté d'engager un processus d'échange immédiatement entre otages et prisonniers palestiniens. Double actualité judiciaire pour Donald Trump ce soir. D'abord, la confirmation de son procès au pénal le 15 avril prochain. prochain. C'est l'affaire Stormy Daniels, du nom de cette ancienne actrice X qui aurait reçu des pots de vin pour cacher une relation avec Donald Trump, l'ancien président américain, qui voit dans une autre affaire son amende allégée, passant de 450 millions de dollars à 175 millions. Il a 10 jours pour la payer.
Après les alertes à la bombe, des établissements scolaires victimes de fausses menaces d'attentats.
Ça fait 5 jours que ça dure. Des collèges, des lycées ont même dû rester fermés une partie de la matinée aujourd'hui en Alsace. Ces menaces sont envoyées via les ENT, ces espaces numériques de travail utilisés normalement pour les échanges entre les parents, les élèves et les enseignants, mais qui sont là piratés. Bonsoir Sonia Princé.
Bonsoir.
Depuis jeudi, près de 130 collèges et lycées ont été visés.
Oui, d'abord 74 lycées d'Île-de-France. Jeudi, une vidéo très violente de décapitation a été envoyée via les ENT, qui sont gérés par les régions. Des messages d'alerte à la bombe ont ensuite été adressés à des collèges de Seine-et-Marne vendredi. Et depuis ce week-end, des collèges et lycées des Hauts-de-France et du Grand Est sont également touchés. Pour le ministère de l'Éducation nationale, d'après les premiers éléments d'enquête, il ne s'agirait pas d'intrusion dans les ENT en raison de failles de sécurité, mais plutôt d'une publication sur Internet de bases de données avec des identifiants volés. Les auteurs des menaces ne se sont donc pas introduits dans le système informatique, mais ont utilisé des identifiants d'élèves ou de professeurs pour envoyer ces messages. À chaque fois, les ENT sont fermés par sécurité. Il n'est plus possible d'y accéder depuis quelques jours dans ces trois régions. À l'automne dernier déjà, les alertes à la bombe s'étaient multipliées dans les établissements scolaires, entraînant l'évacuation des élèves. Mi-novembre, le ministère avait comptabilisé 800 fausses alertes. La menace est à nouveau prise très au sérieux.
Sonia Princé, spécialiste éducation de France Inter. Et face à la menace terroriste bien réelle, cette fois le niveau du plan Vigipirate a été relevé à son niveau maximal en France après l'attentat de Moscou revendiqué par une branche du groupe État islamique. En visite auprès de la force Sentinelle Gare Saint-Lazare à Paris cet après-midi, Gabriel Attal affirme que 4000 militaires supplémentaires sont placés en alerte. Deux projets d'attentats ont été déjoués en France depuis le début de l'année, selon le Premier ministre. Emmanuel Macron, lui, est en Guyane pour une visite express avec beaucoup de sujets sur la table, dont celui de la pêche. Les pêcheurs guyanais se plaignent de la concurrence des bateaux du Brésil ou du Suriname voisin qui pratiquent des pêches illégales. Emmanuel Macron était donc ce matin sous la halle du marché aux poissons de Cayenne. Reportage sur place de Maxence Lambrecq.
La moitié des stands sont fermés. Le paradis de la mer est encore ouvert. Mais pour combien de temps? Léonard Ragneau, patron du comité des pêches.
Ce poisson, c'est comme le bar. Et le bar, on le trouve à 14 euros en France. C'est l'équivalent. Et aujourd'hui, à 7 euros, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Jamais on peut être rentable.
Diviser les prix par deux pour affronter la concurrence déloyale.
Et se fait où cette vente illégale?
Juste à côté.
Juste à côté. Okay. À 50 mètres. Moi, le
blanc. Et qui tient ce marché illégal pour le coup? Plutôt surinamais et brésiliens?
Brésiliens,
voilà. Des Brésiliens qui tuent le marché.
Même nous, restons. On a parfois du mal à se fournir en poisson guyanais.
On va intensifier à la fois les contrôles et les destructions de navires qui vous font la concurrence.
Une promesse reçue avec scepticisme.
Ça fait 25 ans que ça. Moi, je veux voir les actes.
Alors la pêche illégale, quand
ça
on regarde les choses,
que ça dure
là on détruit, on a baissé les chiffres.
Les chiffres n'ont pas baissé. 39 navires. Moi, je vais être franc avec vous. Les gens qui sont sur le terrain, ils ne sont pas représentés.
Mais ils ne peuvent pas faire des réunions de suivi avec 280 000 Guyanais.
Pendant des années, Bruxelles a refusé l'achat par la France de nouveaux navires. Cette fois, c'est bon. Il promet 25 bateaux sous le regard de Christiane Taubira.
On verra s'il n'y aura pas derrière ça des nœuds qui vont rendre impossible la faisabilité de cette annonce. Moi, j'ai envie d'être optimiste, donc je dis tant mieux.
L'ex-ministre ne joue pas le bras de fer, à l'image d'une Guyane bien plus calme qu'en 2017, presque indifférente à cette visite.
Le reportage à Cayenne de l'envoyé spécial de France Inter, Maxence Lambrecq.
Le jugement enfin rendu près de 10 ans après les inondations meurtrières dans les Alpes-Maritimes.
Le tribunal correctionnel de Grasse condamne l'ancienne maire de Biot à 1 an de prison avec sursis. Mais relax, le groupe Orpea, ainsi que la directrice de l'EHPAD où trois résidentes sont mortes noyées le 3 octobre 2015. Plusieurs rivières de la Côte d'Azur s'étaient alors transformées en torrents. Les inondations ont fait 20 victimes au total dans le département. Et Guylaine Debras était poursuivie pour homicides involontaires. Les précisions de Laurent Vareille.
Elle se veut forte à la sortie du tribunal, mais l'ex-maire de Biot a quand même les yeux qui piquent. Guylaine Debras est la seule condamnée, alors tout en assumant ses actes, elle revient inlassablement sur son action lors de cette terrible tempête d'octobre 2015.
J'aurais aimé être moi aussi relaxée, parce que personnellement je ne me suis jamais sentie coupable, parce que ce soir-là j'ai fait tout ce que j'ai pu avec les informations que j'avais et les petits moyens que j'avais, et surtout les moyens que je n'avais pas. Voilà, donc que l'on dise, il faut qu'on coupe une tête, ok, moi je veux bien être celle du maire qu'on va couper, puisque je suis à la tête d'une administration qui avait peut-être des dysfonctionnements, puisque ce jour-là, il manquait du monde à l'appel.
Trois résidents de l'EHPAD sont morts dans leur chambre. Alors pour les familles, comment est-ce possible que les dirigeants d'Orpea, gestionnaires de la maison de retraite, soient relaxés? Denis Delope a perdu une grand-mère. Il se sent démuni.
Un délibéré qui est à moitié, si vous voulez. Que du côté de la mairie, Madame Debras a été condamnée, je le comprends fortement, puisqu'il y a eu manquement à ses obligations de mise en sécurité des citoyens. Et le groupe Orpea devait être condamné. C'est inachevé, voilà. Mais aujourd'hui, on se demande pourquoi le groupe Orpea n'a pas été condamné. Est-ce que c'est politique, financier? Je suis dans cet état d'esprit.
Le parquet a du mal à digérer ce jugement. Il avait demandé de la prison avec sursis pour tout le monde et des indemnités. Il n'a donc pas été suivi. Il a 10 jours pour faire appel.
Un reportage Laurent Vareille, France Bleu Azur.
La Commission européenne est bien décidée à ne pas lâcher les géants américains du numérique.
Hein. Bruxelles ouvre ce soir une nouvelle enquête contre Apple, Google et Meta, maison mère de Facebook et Instagram. La première dans le cadre de la mise en place du règlement sur les marchés numériques. Le DMA entré en vigueur au début du mois. La Commission estime que les règles de la concurrence ne sont pas respectées. France Inter à Bruxelles, Angélique Boin.
La Commission discute depuis des mois avec les GAFAM de leurs nouvelles obligations. Il y a eu des changements, mais pas assez. Google enfreint toujours le droit de la concurrence en renvoyant trop souvent les internautes qui cherchent un avion ou un hôtel vers son propre système d'offres. Apple continue également, selon Bruxelles, d'imposer ses propres applications, alors que la loi européenne prévoit que chacun désinstalle facilement ce qui ne lui convient pas. Enfin, Amazon est soupçonné de toujours privilégier ses marques et Meta d'utiliser sans consentement assez éclairé les données personnelles des utilisateurs de Facebook et Instagram. L'ouverture de 5 procédures distinctes est un nouveau coup de semonce pour les géants du numérique, soupçonnés de traîner les pieds pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, règles qui visent à lutter contre les monopoles, à protéger les consommateurs, mais aussi à lutter contre la désinformation. Ils ont pourtant été bien prévenus, explique le commissaire européen Thierry Breton.
La loi est la loi. Elle a pris personne par surprise. Cette loi, elle est faite pour corriger ce qui nous semble pas aller dans le sens de l'intérêt général. Et derrière, c'est aussi la protection de nos concitoyens, que ça ne peut pas attendre, dans des contextes de guerre, dans des contextes d'élections aussi, de désinformation.
Les géants du numérique contestent les accusations de non-conformité relevées aujourd'hui et annoncent vouloir poursuivre leur dialogue avec la Commission. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Ce sera le 8 mai, le début du parcours de la flamme olympique en France. Et si ce sont les Jeux de Paris 2024, c'est bien Marseille que le feu venu de Grèce illuminera en premier. La torche sera transportée par le Bélème, le 3 mât, qui sera au cœur d'une grande parade nautique dévoilée aujourd'hui. Mathilde Vincenot est à Marseille.
Un millier de bateaux pourront prendre le large pour suivre la flamme olympique avant qu'elle ne débarque sur le Vieux-Port. Une parade de plusieurs heures du nord au sud de la rade de Marseille. Un parcours comme un ruban sur la mer.
C'est une très grosse parade.
Jean-Pierre Churet est coordinateur nautique pour les JO 2024.
Toutes les embarcations sont bienvenues dans la mesure où on respecte effectivement déjà la loi de la mer. Il faut donc être prudent, ne pas surcharger les bateaux, mais effectivement, il faut accueillir tous les bateaux. On met d'ailleurs à l'honneur même nos bateaux mythiques comme les barquettes et comme les bateaux de tradition. C'est nos bateaux à moteur qui font partie de la réalité des pratiquants de la mer.
Des bateaux qui ne devront pas dépasser une certaine taille, 41 mètres de long pour les voiliers, histoire de ne pas faire de l'ombre au Bélème qui transportera la flamme. Avec une condition toujours, la météo, le Mistral ne devra pas venir gâcher la fête. Gilles Boisdevézy, préfet maritime de la Méditerranée.
Pour garantir la sécurité de l'ensemble des moyens nautiques sur le plan d'eau, on a fixé une vitesse maximum du vent de 25 nœuds, c'est-à-dire à peu près 45 km/h.
Pour s'inscrire à la parade nautique, il faut remplir dès à présent un formulaire en ligne. Et pour tous ceux qui n'ont pas de bateau, il sera toujours possible de circuler en paddle ou en canoë le long du littoral.
Mathilde Vincenot, et puis elle est une de nos grandes championnes paralympiques. La skieuse Marie Bochet, 8 fois médaillée d'or aux Jeux d'hiver, prend sa retraite. Elle l'annonce ce soir. À 30 ans, elle a tout gagné en ski alpin, 22 fois championne du monde. Elle a disputé la dernière course de sa carrière hier en Italie. Fin du bal, a-t-elle tout simplement écrit sur Instagram.
Elle a bien dansé quand même. Merci beaucoup Kevin, vous revenez tout à l'heure dans Sous les radars. On jette un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur euromaster.fr.
Et Sébastien Léas, bonsoir. De la pluie pour demain.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Après cet intermède d'accalmie plutôt lumineuse pour aujourd'hui, c'est une situation bien plus agitée qui se dessine pour demain. Des remontées pluvieuses sont en train d'envahir l'Occitanie et la Provence et une perturbation touche actuellement le Finistère. Ces deux phénomènes vont se conjuguer pour donner un temps gris et pluvieux demain sur la quasi-totalité du pays. Seule l'Alsace, la Franche-Comté et les Savoies resteront au sec, mais les éclaircies auront tendance à se raccourcir au fil de la journée. Les pluies arriveront plus tardivement au nord de la Seine. En revanche, en Occitanie, les cumuls risquent d'être abondants, notamment sur les Cévennes. En Bretagne, ce sont essentiellement quelques averses qui sont attendues demain. Et puis, il va aussi neiger à des altitudes de plus en plus basses, des 800 mètres demain après-midi sur les Pyrénées et le Massif central, par exemple.
Et attention aussi au vent fort dans le sud-est.
Oui, déjà soutenu. Le vent va encore monter d'un cran entre le pourtour méditerranéen et le relief d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est sur les plages que les rafales seront les plus violentes, pouvant dépasser 100 km/h, surtout le matin. Ce vent puissant va rendre la mer dangereuse. C'est pourquoi l'Hérault a été placé en vigilance orange pour demain matin. Évidemment, avec ce temps gris et humide, les températures maximales vont chuter, notamment dans le sud-ouest. Demain après-midi, le mercure culminera à seulement 8 degrés à Toulouse, 11 degrés à Brest et Nantes, 12 degrés pour Paris, 14 degrés à Lyon et à Lille, 15 degrés à Marseille et tout de même 17 degrés à Strasbourg.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup. Vous revenez tout à l'heure à partir de 19h, enfin non, juste après le journal de 19h.